Je me suis dit, oh là là, c'est vrai, il y a toute cette énumération. Est-ce qu'on va tirer quelque chose de ce chapitre? Ça va être vite fait, je vais passer au chapitre 4. Eh bien si, il y a des tas de choses dans ce chapitre, vous allez voir. Et Dieu nous parle même au travers de passages comme ça. C'est ça qui est très curieux dans la Bible. C'est que plus on creuse, plus on en trouve. Hein. Et c'est merveilleux, Dieu nous parle au travers des choses les plus inattendues. Donc on va faire un tout petit rappel. Vous vous rappelez que Néhémie avait inspecté les murailles et il avait fait une sorte de diagnostic. Alors là aussi, il raconte son parcours de façon très très précise et on peut se demander pourquoi. Je crois qu'il y a un message là aussi. Néhémie était quelqu'un de systématique, d'organisé, et je pense que ça nous parle aussi dans la mesure où il représente vraiment l'Esprit de Dieu. Parfois, on a l'impression que le Saint-Esprit, ah, c'est une puissance qui fait n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et c'est pas vrai. Parfois, on est surpris par sa façon de procéder, d'accord. Mais il y a un ordre. Hein. Dieu est un Dieu d'ordre. Et on va le voir avec Néhémie encore aujourd'hui. Dieu est un Dieu d'ordre. Il fait les choses. Il a un plan. Il a une stratégie. Il a pour nous un avenir, une espérance. Il a un plan pour notre vie. Ça nous surprend parfois, mais quand on regarde en arrière, il a un plan, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on a pu traverser. Vous connaissez l'histoire de cette personne qui se promenait en ville et qui voit quelqu'un. Vous savez, parfois il y a des gens qui vont vendre des trucs ou simplement représenter quelque chose. Il y en a qui font des mimes, des choses comme ça. Et cette personne avait une paire de ciseaux et du papier. Et coupait le papier. Et on voyait les petits morceaux de papier qui tombaient par terre comme des confettis. Et les gens étaient autour, disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tout ce qu'on voit, c'est des petits morceaux de papier qui n'arrêtent pas de tomber par terre. Et puis au bout d'un moment, je crois qu'il a coupé, il déplie son papier. Et c'était un apron de dentelle de papier absolument magnifique. Et parfois avec nos vies, c'est un petit peu la même chose. On dit, Seigneur, tu coupes. Il y a ça qui est tombé, et ça, et on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va rester? Et puis, un jour, je pense que Dieu va déplier. Je sais pas quand. Il va déplier, on va se dire, waouh, ça, c'était bien conçu. Et c'est un petit peu comme ça, je crois. Le Saint-Esprit, il agit dans nos vies. Parfois, on se dit, oh là là, j'arrête pas de perdre des trucs, j'arrête pas de... Mais en fait, il construit quelque chose de très beau. Et qui va être beau à voir, qui va tenir la route. C'est pas du désordre. Le Saint-Esprit fait des choses bien pensées. Et je pense que c'est ça que nous transmet Néhémie, justement, dans son diagnostic. Hein. Il a fait tout le tour. Et vous vous rappelez, il y a même un endroit où sa monture ne passait pas. Son âne ou sa mule ou son cheval, je sais pas trop. N'a pas pu passer tellement il y avait de décombres. Alors, vous avez vu, malheureusement, à la télé, on voit quand il y a eu un tremblement de terre ou quand il y a eu des guerres, des bombes, etc. On voit un peu les décombres. Vous vous souvenez de World Trade Center? C'était une montagne de décombres absolument fantastique. Et parfois, dans nos vies aussi, il y a des décombres comme ça. Et on se dit, ça va jamais être possible de reconstruire. Surtout à cette époque, hein, ils n'avaient pas les engins qu'on a maintenant. Donc devant ces montagnes de décombres, quel était leur sentiment, quel était le sentiment de Néhémie? On le voit après. Nous rebâtirons. Pourtant, les décombres, ça devait pas être drôle. Hein. Il y a des décombres dans nos vies parfois qui sont tels que les autres peuvent même pas passer. Les relations humaines deviennent extrêmement difficiles parce qu'il y a tellement de décombres. Et ça fait réfléchir. Mais vous avez vu le diagnostic de Néhémie quand il va s'adresser aux notables. Il dit, vous voyez, Jérusalem est un champ de ruines, ses portes ont été détruites par le feu. Enfin, il en rajoute pas, il donne simplement les faits visibles, clairs, évidents pour tous. D'abord, j'ai noté qu'il fait pas la politique de l'autruche. Il se cache pas en disant, bon, je veux pas voir. Non, il fait le tour, il regarde, il fait face. D'un autre sens, il n'y a pas d'exagération démoralisante non plus. Oh, cette ville est irrécupérable. C'est pas possible, on va jamais y arriver. Non, il est venu pour reconstruire. Il ne cède pas à la tentation de démoraliser. Il va pas non plus aller dans l'autre sens. Oh, c'est pas si grave que ça, on va s'en sortir. Non. Il est très clair. Moi, j'aime bien son diagnostic. Vous voyez, Jérusalem est un champ de ruines, ses portes ont été détruites. C'est simple, c'est clair, mais c'est la vérité. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est la vérité qui rend libre, qui libère. Je crois que Elsa a entendu ça pendant 3 ans. C'est la vérité qui libère. En ce moment, c'est Claire qui entend ça à l'école biblique. Mais c'est important. Il n'en rajoute pas. Il dit simplement, voilà ce que j'ai constaté. C'est un fait visible. D'un autre sens, ce que j'aime aussi chez Néhémie, surtout quand on pense que c'est une figure hein, du Saint-Esprit, il ne fait pas de reproches. Non mais enfin, ça fait 150 ans que vous êtes rentrés, pour certains en tout cas, et vous avez toujours rien fait. Non mais enfin, vous avez laissé les ronces pousser, ça va être encore plus difficile qu'avant, pour enlever les pierres, il va falloir les nettoyer, gna gna gna, elles sont remplies de poussière, etc. Non, aucun reproche, ni du yaka. Oh, c'est pas compliqué, on va yaka faire ci, yaka faire ça. Il aura pas dit non plus, vous avez donc perdu la foi. Dieu vous a permis de rentrer. Et puis alors, les prophéties, vous en faites quoi? Moi, j'aime bien son attitude. Il ne juge pas. Il décourage pas. Il n'accuse pas. Ensuite, il conclut en disant, venez, rebâtissons. Et vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais signalé que il joue pas son Zorro. Ah, c'est pas, voilà, Zorro est arrivé, maintenant, je suis le chef, je vous dirige, je fais ceci, je fais cela. Il le dit absolument pas, j'aime son humilité, nous, ensemble, rebâtissons. Et il s'est mis avec eux. Il se comporte pas comme le gouverneur qui va tout réorganiser, et pourtant, c'est un monstre d'organisation, Néhémie. Incroyable. Mais il le dit même pas, il le fait. Il n'en parle pas. Il dit pas, vous savez, j'ai l'autorité légitime, je vais faire ci, ça. Il l'a, il n'en parle pas. J'ai vu ce qu'il faut faire, vous allez vous y mettre sous ma direction. Rien de tout ça. Venez, rebâtissons. C'est rudement encourageant. Et quand Dieu regarde notre vie, quand le Saint-Esprit regarde nos vies, il a cette même attitude. Allez, on rebâtit. On rebâtit ensemble. C'est pas la poudre de perlimpinpin, le Saint-Esprit va rebâtir votre vie, pouch, comme ça. C'est pas, oh, allez, comme ci, comme ça, c'est, allez, rebâtissons ensemble. C'est ça que j'aime beaucoup, moi. Cette collaboration du Saint-Esprit avec nous. C'est super. Dieu n'a pas cette attitude, vous savez, qui pèse. C'est, allez, on va y aller ensemble. Et ça donne plus envie de restaurer nos vies que si on avait quelqu'un qui vient nous imposer des choses. Tu dois pas, il faut pas. C'est vraiment, allez, on va rebâtir tout ça. Et le quatrième point, je crois qu'on en était là, plus ou moins, et nous ne serons plus dans le déshonneur. Alors, il y a une autre traduction qui dit, nous serons plus exposés aux outrages. Alors, j'aime bien les deux, être dans le déshonneur et exposés aux outrages. Il va s'associer avec eux, il leur donne une espérance, une vision pour l'avenir. Il ne veut pas s'accoutumer à cette situation dégradante, il leur donne vraiment un avenir, une espérance. C'est ça que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Donc, Néhémie est vraiment une très bonne image du Saint-Esprit. Et pour ça, il projette déjà l'avenir de Jérusalem et de ses habitants une fois le travail fini. Voilà comment sera notre vie. Alors vous savez, quand on a des choses à rebâtir dans notre vie, quand il y a des murailles détruites, quand il y a des portes brûlées, vous voyez tout ce que ça peut représenter dans votre vie à vous, c'est très important d'avoir une vision de comment sera ma vie quand tout ça se sera réglé. Et c'est ça qu'il leur dit. Et nous ne serons plus dans le déshonneur. On sera plus exposé aux outrages. Voilà, la vie qui est devant nous, ça va être autre chose. Donc, la reconstruction, la repose des portes, etc., ça va être chouette. Et vous savez, c'est quand même plus agréable de dire à quelqu'un, parce que c'est la vérité, quand tu seras débarrassé de ces problèmes, de ces souffrances, quand tu seras guéri de toutes ces peines passées, quand tu vas pouvoir reconstruire tes murs, remettre tes portes, etc., waouh, comme la vie va être super, elle va être beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus agréable. C'est ça que Dieu nous donne, un avenir, une espérance. Quand tu vas réussir à avoir la victoire sur tel et tel problème de ta vie. Et c'est ça que j'aime avec le Saint-Esprit. Hein, il nous encourage, rebâtissons ensemble et il nous donne un avenir, une espérance. Tu vas voir, quand tu vas être guéri de tout ça, quand tu vas avoir mis tout ça au pied du Seigneur, waouh, tu vas respirer. Hein, ça, c'est important de cette vision qui nous tire en avant et qui nous donne le courage de travailler, de se donner de la peine, parce que c'est vrai que parfois, pour guérir de certaines choses, pour déposer certaines choses à Dieu, on souffre un petit peu. C'est pas facile. Et vous allez voir, quand ils vont reconstruire, ça va pas être drôle. Hein, c'est toutes ces pierres. Alors, je sais, je voulais vérifier, j'ai pas eu le temps, mais J'ai un voisin qui travaille la pierre, je voulais lui demander, mais mon père disait toujours que quand les pierres ou les briques ont été brûlées et qu'elle la suit dessus, il faut carrément les reponcer, on peut pas les réempiler, le ciment ne prend pas dessus. Alors je sais pas si c'était vrai avec le ciment de l'époque, mais c'est possible. Ça voulait dire qu'il fallait non seulement nettoyer les pierres, mais les gratter, les poncer, pour qu'on puisse les réutiliser. Si elle, les endroits qui avaient de la suie, comme il y a eu beaucoup d'incendies, ça devait pas être drôle. Donc il y avait un gros travail, hein, un très gros travail. Mais si, par le Saint-Esprit, on arrive à rebâtir ce que l'ennemi a détruit dans nos vies, l'ennemi n'aura plus de prise sur nous, on sera plus dans le déshonneur, on sera plus opposé à ses outrages. Notre âme sera en sécurité. Avoir ce sentiment de sécurité dans le Seigneur, ça c'est très très important. L'ennemi ne pourra plus nous humilier en nous faisant agir d'une manière qui n'honore pas Dieu. Parce que combien de fois, c'est Paul hein, qui le dit, on fait les choses qu'on ne voudrait pas faire, on dit des choses qu'on ne voudrait pas dire. Puis après, oh zut. Il dit pas ça, Paul, mais c'est moi qui le dis. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans nos vies où on se sent un peu les marionnettes de l'ennemi. On va faire ou dire des choses qu'on voudrait pas faire. Et c'est une façon pour l'ennemi souvent de nous humilier. On agit d'une façon qui n'honore pas Dieu. Et c'est important de se dire, le Saint-Esprit va nous aider à reconstruire. Pour en plus, on passe plus par là. Tout au moins dans tel ou tel domaine, parce qu'on sera jamais parfait, hélas. Nos portes ne laisseront entrer que ce que nous choisirons de laisser entrer. Et ça, c'est important. Vous savez, à l'époque, les villes étaient la cible de toutes sortes de rôdeurs et on s'arrangeait justement pour trouver le moyen d'entrer. Et c'est pour ça qu'ils fermaient les portes, ils avaient toutes sortes de systèmes. Très tôt le matin, ils les ouvraient, ils les refermaient le soir pour que les gens soient en sécurité la nuit. Vous imaginez Jérusalem avec son temple. Il n'y avait aucune sécurité, toutes les portes brûlées. N'importe qui pouvait rentrer et sortir comme il voulait et faire n'importe quoi dans la ville. Ce qui explique pourquoi ils n'ont pas reconstruit les maisons. Hein. Les gens n'avaient pas trop envie d'aller reconstruire des maisons dans une ville qui était ouverte à tous les voleurs, les maraudeurs de toutes sortes. Et pour nous, ne pas avoir de porte, c'est souvent ne pas avoir de discernement. Vous savez, nos portes principales, c'est nos yeux et nos oreilles. Là, c'est des portes grandes ouvertes à longueur de journée. On les ferme la nuit pour dormir. Mais bon, encore quelquefois, nos rêves peuvent être désagréables. Donc, on a des portes aussi. Et comment est-ce qu'on peut fermer ces portes pour pas que n'importe quoi rentre dans nos yeux, dans nos oreilles? Ben c'est vraiment que le Seigneur nous donne du discernement pour faire des choix, pour pas laisser entrer n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on laisse entrer et qui vont contribuer à détruire nos murs. Soit par nos yeux, soit par nos oreilles. Il y a des gens qu'on peut écouter et qui vont détruire nos murs, qui vont détruire quelque chose dans nos vies, détruire notre sécurité. Et il faut se protéger. Et si notre âme est reconstruite par le Saint-Esprit, avec des bonnes portes de discernement, posé sur nous, on sera plus exposé, quasiment sans défense, à tous les outrages de l'ennemi. Mais c'est vrai que les portes, il faut y penser, ce discernement pour ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Tout le temps dans notre vie, ça va être le problème. Parce que là, on a des ouvertures qu'il faut savoir fermer de temps en temps. Ça vaut la peine de rebâtir avec le Saint-Esprit pour se protéger, pour vivre en sécurité. Donc on a un avenir, une espérance, on a une vision de l'avenir, comme le donne Néhémie. Et puis, il ajoute, « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Il aurait pu commencer par là. « Me voilà envoyé par le roi de Perse pour reconstruire Jérusalem. » Et c'est marrant, mais il finit par ça, pratiquement. C'était pas le plus important pour lui. Plus important, je crois que c'était que les gens prennent bien conscience du problème, soient prêts, se mettent à rebâtir. Et puis, il leur raconte ça, ben c'est pour les encourager. S'il avait commencé par là, c'était pour dire, eh oh, moi, Zoro, je me voilà. Il termine par ça, parce qu'en fait, il veut leur dire, Dieu s'intéresse à vous. Dieu s'intéresse à vous. Dieu a vu votre déshonneur, il a vu vos souffrances, et il m'a appelé pour venir vous aider, et j'ai eu des bonnes paroles de la part du roi. La bonne main de Dieu est sur moi. Non pas sur moi parce que je suis plus beau et plus fort, mais sur moi pour venir vous aider. Donc c'est une parole d'encouragement. Il leur raconte comment Dieu l'a conduit. C'est pour les encourager à tourner le regard vers cette bonne main de Dieu. Et ça c'est fantastique, de sentir quand on fait quelque chose que la bonne main de Dieu est avec nous. Ça c'est agréable. Vous savez, parfois on passe par des moments difficiles, on se dit « Oh là là, comment je vais m'en sortir ? C'est des ruines tout ça !» comment je vais m'en sortir? Et pouvoir dire, mais je sais que la bonne main de Dieu est avec moi. Ah, ça. Rien que de le dire, ça fait du bien. Et il leur rappelle ça, la bonne main de Dieu est avec nous, elle va nous conduire, elle va nous protéger, et Dieu va accomplir les promesses. En fait, c'est ça qui était dans leur tête, qui ont été données par les prophètes. Alors, je voulais les reprendre, j'ai malheureusement pas eu le temps, mais je le ferai peut-être après. Si on relit les prophéties de Jérémie, entre autres, on va retrouver ça. Vous retournerez dans votre pays. Vous pourrez reconstruire, vous pourrez revivre. Et ça s'est réalisé, 70 ans après, ça a commencé. Et là, on est déjà 150 ans après le début du retour. Mais Dieu accomplit ses promesses. Dieu est avec nous. C'est ça le message de Néhémie. Et c'est ça le message du Saint-Esprit dans nos vies. T'inquiète pas, t'as des tas de choses à reconstruire. Il y a un peu de ruines partout. On en a tous, des petites ruines qui traînent par-ci, par-là, ou des grosses. Mais le message du Saint-Esprit, là, la bonne main de Dieu est sur toi. C'est quand même, hein? C'est quand même encourageant. C'est le message du Saint-Esprit, c'est le message de Néhémie. La bonne main de Dieu est sur nous. Ensuite, la réaction des gens après ce beau message, tout simple, elle se fait pas attendre. Néhémie a réussi à motiver ses troupes. Et on va revoir comment il a fait. Il a posé un diagnostic qui était vrai. Quand quelque chose ne va pas, faut chercher à faire un bon diagnostic. Il a pas fait de reproches. Il s'est associé avec eux dans la reconstruction. Il leur a donné un avenir et une espérance, comme dit Jérémie. Et il les a assurés. Il leur a donné la preuve que Dieu était avec eux. Donc les troupes sont motivées. Ces gens qui n'avaient pas bougé depuis 150 ans, donc leurs parents, leurs grands-parents n'avaient guère bougé non plus, ça y est, ils sont motivés. Quand nous avons quelque chose à reconstruire, que ce soit notre vie de famille, couple, travail, une association, une église, ou seulement un domaine de notre vie, c'est exactement ce que le Saint-Esprit nous conduit à faire. Un bon diagnostic, pas de reproches, il s'associe avec nous. Et c'est ça que j'aime bien dans la foi chrétienne. C'est pas la poudre de perlimpinpin, c'est le Saint-Esprit qui s'associe avec nous. C'est comme la femme de Jean-Paul Anglaire, hein, qui dit parfois, quand elle se lève le matin, elle dit « Ah, Saint-Esprit, tu vas m'aider aujourd'hui pour ma journée, on va travailler ensemble. » Ça m'avait amusé la première fois que j'ai entendu ça, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. On s'associe avec le Saint-Esprit et il s'associe avec nous. C'est pas seulement un consolateur. Vous savez, parfois on dit « Saint-Esprit consolateur ». Oh là là, ça va aller. Non, c'est un reconstructeur. C'est le consolateur qui reconstruit, comme Néhémie. Et pour nous reconstruire, je redis ce qu'on a tous appris au torrent qui purifie. Dieu nous révèle ce qui va pas, ce qu'il faut faire. On se repent, on renonce, évidemment, ces petits morceaux de papier qui tombent. Et Dieu nous restaure. C'est comme ça, ça marche. Il n'y a pas d'autre chemin pour la restauration. On réalise bien ce qui va pas, on se repent, on renonce à certaines choses, et puis on est restauré par le Saint-Esprit. Alors, jusque-là, tout va bien, mais au verset 19, voilà ce qu'on lit. « Sambala le Horonite, Tobija l'administrateur ammonite et Geshem l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous traitèrent avec mépris. Ils dirent, que faites-vous là? Vous rebellez-vous contre le roi? » Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu du ciel nous fera réussir. » Vous voyez, toujours, il est très positif. Hein. Nous, ses serviteurs, nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni vocation dans Jérusalem. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur la réponse de Néhémie, parce que c'est pas évident. Mais on va d'abord voir l'attaque de l'ennemi, la première attaque. Première. Et vous savez que dans nos vies, ça marche exactement pareil. Toutes ces années passées, j'ai vu que quand l'ennemi nous attaque, il procède pratiquement toujours pareil. Première attaque, il se moque de nous. Ah, ah, mais qui tu es, toi? Toi, tu veux changer? Oh, non, mais t'as pas vu, toi? Non, mais oh. Déjà, rien que l'hérédité, c'est pas joli, alors, hein? Et c'est vraiment la moquerie. Il se moque de nous. Et c'est pour ça qu'il y a ce verset extraordinaire qui dit, ne vous asseyez pas sur le banc des moqueurs. Ah, nous, en France, on a un petit problème avec la moquerie, hein. Faut reconnaître qu'on aime bien. On aime bien se moquer, on aime bien rire de soi et des autres, surtout. Et c'est un peu gênant. Il y a humour et moquerie, c'est pas tout à fait la même chose. Et souvent, on glisse vers la moquerie. C'est pas très bon et ça nous fait beaucoup de mal. En fait, ça nous fait beaucoup de mal. Ça détruit beaucoup de choses dans une vie, la moquerie. Combien d'enfants ont été détruits par la moquerie? Pas du tout méchante, parfois. de parents ou d'instituteurs ou de figures d'autorité. La moquerie, c'est quelque chose de très dangereux. Très dangereux. Je suis pour l'humour, vous le savez bien d'ailleurs, parce que je ne veux pas me retenir de vous embêter les uns ou les autres. Mais la moquerie, c'est dangereux. Et la Bible est claire, ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs. C'est destructeur. Destructeur. Et l'ennemi, sa première arme dans l'histoire de Néhémie, c'est la moquerie. Que faites-vous là? On va voir après, hein, si un renard passe, etc., on va en voir d'autres. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse attention, si on veut reconstruire nos vies et aider les autres à se reconstruire, de mettre une garde à notre bouche au niveau de la moquerie. C'est vrai que parfois, c'est irrésistible. On voit des choses, on a envie de se moquer. Notre esprit français, notre chair culturelle française, on a envie de sauter dessus. Mais il faut essayer de résister avec l'aide de Dieu. La moquerie détruit. Détruit. Elle peut faire beaucoup plus de mal que vous l'imaginez. Combien de suicides, on n'a pas fait le calcul, mais ça vaudrait le coup, ont été motivés par des moqueries. Moqueries acerbes. Donc, faut être prudent. Et c'est vraiment la première arme de l'ennemi, la moquerie. Et puis, évidemment, après, c'est le mépris. On va penser à Jésus. Jésus, quand on vient à Jésus, Jésus a subi les moqueries, hein, et le mépris autour de lui. Et nous-mêmes, quand on s'approche de Jésus, souvent, on subit la moquerie et le mépris des gens qui nous entourent. Famille, amis, tu vas te faire curé, tu vas te faire bonne sœur, qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce que c'est que toutes ces bondieuseries, vraiment pas scientifique ton truc, hein, oh oui c'est ça, c'est Tartuffe et compagnie, tu rejettes ta famille, ta religion, tes traditions, la rébellion, on est accusé de rébellion, c'est le deuxième point, moquerie, mépris, ils accusent de rébellion contre le roi, ça, ah, tu te rebelles hein, tu te rebelles contre ta famille. Tu te rebelles contre les traditions de notre famille. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ridicule d'ailleurs d'avoir accusé Néhémie comme ça. Moi je trouve que Néhémie il a du sang-froid. Parce que moi j'aurais dit, mais attendez, comment voulez-vous que je me rebelle contre le roi? J'ai tous les papiers du roi ici. Néhémie garde son calme. Et sa réponse c'est pas mal. Hein. Mais il avait une légitimité reconnue, mais ils arrivent quand même à l'accuser de rébellion. Ça moi je comprends pas. Il avait les lettres, il avait l'escorte, vous vous rappelez? Il avait une petite escorte militaire avec lui, le titre de gouverneur, des papiers pour des dons de matériaux et une mission express du roi pour rebâtir. Et on l'accuse de se rebeller contre le roi en reconstruisant. Donc voyez quand même, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans les attaques de l'ennemi. Et c'est souvent comme ça. Hein. Et c'est ça souvent qui nous rebelle, qui nous met en colère. Quand l'ennemi nous attaque, c'est des choses complètement évidentes et il trouve moyen de nous dire exactement le contraire. Hein, ça, je sais pas, ça a dû vous arriver, hein. On vous accuse d'exactement le contraire de ce que vous êtes en train de faire. Ça révolte, hein. En tant qu'ambassadeur de Christ, je crois que parfois, malheureusement, on a tendance à baisser pavillon devant la moquerie ou le mépris. Et ça, je pense que c'est pour les jeunes. Sixième, cinquième, quatrième, c'est très difficile devant la moquerie des copains ou des copines de tenir bon dans sa foi. Très, très difficile. Et souvent, en tant qu'adulte, on s'imagine pas ce que les enfants vivent au quotidien en classe. Hein, alors, ceux qui sont profs, ils savent ce que les enfants vivent en classe. Et souvent, moi, j'ai vraiment de la peine pour certains élèves. On sent qu'ils veulent travailler, ils veulent avancer, et ils subissent sans arrêt la moquerie des autres. Parce que c'est des bons élèves, parce qu'ils bossent, parce que des fois, ils sont un petit peu timides, ils ont d'excellentes notes. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'ils endurent! Et c'est cours après cours, dans les couloirs, dans les récréations. Priez pour vos enfants, surtout s'ils travaillent bien. Parce qu'il faut encaisser ces moqueries sans arrêt. Parce qu'on est un bon élève. Curieux, hein. Pour les chrétiens, c'est pareil. On a tendance à baisser pavillon parce que on va vous dire, tu veux tout révolutionner, tu veux convertir tout le monde, tu te crois plus intelligent que les autres, puis tu crois que tu vas faire mieux que les autres. Parce que nous, on veut chercher à restaurer, à reconstruire notre vie, nos couples, nos familles. Oh, c'est pas la peine. Tu changes de partenaire et puis c'est bon, non, mais attends. On vit au 21e siècle, qu'est-ce que tu racontes? Venant d'où tu viens, de toute façon, tu t'en sortiras pas. Ta vie, ta situation, elle n'est pas réparable, hein, c'est pas la peine. Et puis, ce mépris, cette moquerie, ça use. Hein. Alors, la réaction de Néhémie m'a fait pas mal réfléchir. Un, il se justifie pas. Il dit pas, mais j'ai mes papiers sur moi, etc. Il cherche même pas à se justifier. Avec l'ennemi, ça vaut pas le coup, parce que de toute façon, il sait, hein. Il sait que la main de Dieu est sur vous. Il sait que le roi vous a donné les lettres et l'escorte et la bénédiction et la protection. Donc, c'est pas la peine de lui redire. Simplement, il dit, le Dieu du ciel nous fera réussir. Cause toujours. Le Dieu du ciel, c'est le langage qu'ils pouvaient comprendre à l'époque. Le Dieu du ciel, parce qu'ils avaient tas de dieux, donc il fallait bien préciser. Le Dieu du ciel nous fera réussir. J'affirme quoi? La vérité. Je ne discute pas, je ne me justifie pas. Le Dieu du ciel nous fera réussir. Il fallait le faire. Moi, j'aurais vraiment essayé de leur montrer qu'ils avaient tort. Il ne discute pas, il ne s'explique pas, il ne se justifie pas, il ne donne même pas ses preuves. Rappelez-vous Jésus face au diable. Dieu a dit, la parole de Dieu dit. Bon, la vérité. Et il y a des moments dans notre vie où il ne faut pas se laisser aller. En face de l'opposition, en face de l'hostilité, il n'y a que la vérité. Voilà. Moi, je m'en tiens à ça. Je ne veux pas me défendre, je ne veux pas me bagarrer. Et attention, lui ne va pas répondre par d'autres moqueries. Est-ce qu'on n'est pas tenté parfois, surtout pour ceux qui ont la parole facile? Bon, les autres, peut-être, ils le pensent dans leur tête. C'est pas mieux. Mais on a tendance à renvoyer moquerie pour moquerie. Oh, bon, toi, tu sais, franchement. Puis parfois, il nous vient vraiment la bonne phrase qu'on aime leur retourner. Mais Dieu ne nous demande pas ça. Pas dent pour dent, hein, c'est... On reste soumis à Dieu, on ne répond pas. Donc, il ne répond pas par d'autres moqueries, ni par le mépris. Oh, moi, je suis un enfant de Dieu. Ça aussi, ça peut être une tendance. Moi, j'ai connu des chrétiens, pas ici, mais quand j'étais petite, qui répondaient comme ça quand des inconvertis les attaquaient, des non-chrétiens les attaquaient. Oh, c'est pas joli, hein. Dieu nous a pas appelés mépriser les gens qui vous entourent. Il a dit aimez. Aimez vos ennemis, etc. Donc attention que nous, on rentre pas ces petites choses du « Oh, je rends pas le mal pour le mal !» Je l'ignore, et puis, oui, bon. Attention, la moquerie, le mépris, on ne le rend pas. Même s'il nous est adressé. Et même si on a du répondant. Et puis, il rappelle simplement qui est à l'origine de la reconstruction. C'est pas les hommes, c'est Dieu. Qu'est-ce qui va reconstruire ma vie? C'est pas vous, c'est Dieu. Il y a eu des prophéties, il y a eu des promesses, il a la faveur du roi. Il rappelle les rôles. Dieu fait réussir. Nous, alors j'aime bien la suite, nous, ses serviteurs, nous bâtirons. Ah, ça c'est un bon principe, hein. Dieu fait réussir, nous on rebâtit. C'est pas la poudre de perlimpinpin, hein. Rebâtir, je peux vous dire, c'était pas drôle. Dieu fait réussir, nous on rebâtit. Et c'est un petit peu ce qu'on vit dans notre vie. C'est la collaboration dont je parlais tout à l'heure entre Dieu et nous, entre le Saint-Esprit et nous. On fait ce que Dieu nous demande et c'est Dieu qui nous fera réussir. On fait ce que Dieu nous demande et c'est Dieu qui fera réussir. Même en face de l'opposition. Si vous avez de l'opposition au travail, je crois que vous en avez tous eu, hein, j'ai entendu des beaux témoignages à ce sujet qui sont bien terminés parce que Dieu fait réussir. Ah, n'oubliez pas. Parce que Dieu fait réussir. Mais il a fallu quand même que vous bâtissiez, hein, tous ceux qui ont passé par des moments difficiles, hein, au travail. Il a fallu suer sang et eau parfois. Il a fallu... La collaboration avec Dieu, c'est pas « je te regarde faire », c'est vraiment... Moi, je fais ce que j'ai à faire et je sais que toi, tu vas me faire réussir. Et on a des beaux témoignages dans l'église. Si vous voulez des bons témoignages, vous pouvez demander à Philippe, vous pouvez demander à Arnaud, vous pouvez demander plein de gens ici. De bons témoignages ou comment Dieu a fait réussir. Mais il a fallu bâtir. Et c'était pas drôle tous les jours. Faisons ce que Dieu nous demande. Dieu nous fera réussir. Vous vous souvenez de ce verset, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc parfois, on peut bâtir, mais n'importe comment. Et ça sert à rien, si c'est pas Dieu qui est avec nous pour bâtir. Donc vous voyez, il faut les deux. Il faut les deux. Alors j'aime bien ce « le Dieu du ciel nous fera réussir, nous, ses serviteurs, nous bâtirons. » Et après, il y a un « mais ». Et là, je trouve qu'il est quand même coton, le petit Néhémie. « Mais, vous !» Et alors là, il est clair. Il est poli, hein. Il est poli, mais c'est « vous n'avez ni part, ni droit ». Alors, suivant les traductions, j'en ai regardé plusieurs, « ni évocation dans Jérusalem ». Alors, j'ai regardé un petit peu dans différentes versions. En gros, vous n'avez rien à voir ici. C'est pas votre héritage. Vous n'avez aucune légitimité ici, ce qui était tout à fait vrai au niveau juridique. Pas de légitimité. Et puis, vous n'avez pas, alors, évocation, mémorial, souvenir, non. Je pense que c'est quelque chose qui est lié à la généalogie, hein. Votre arbre généalogique, il n'est pas planté là. En gros, c'est ça. C'est plus clair hein, comme ça. Donc, vous n'avez pas d'héritage, vous n'avez aucune légitimité juridique, et puis vous n'avez pas de généalogie ici. Donc, vous n'avez rien à voir avec ça. Ah ben, ça peut pas être plus clair. Hein. Mais vous voyez, c'est pas injurieux, c'est pas méprisant. C'est simplement un fait. Vous n'avez ni part, ni droit, ni évocation dans Jérusalem. Bon, on en reste là. Il faut qu'on soit sûr aussi, quand l'ennemi vient nous attaquer, quand l'ennemi essaie de venir nous décourager, qu'on commence pas à discuter avec lui. « Ah ben oui, mais peut-être que tu as raison, et puis peut-être que je devrais faire ci. » ou Non, quand l'ennemi vient vous attaquer, vous savez que c'est l'ennemi. « Oh, tu y arriveras jamais, mais de toute façon, tu vois pas, ta mère était déjà comme ça, ta grand-mère, ou bien ton père, de toute façon, tu t'en sortiras pas, c'est vous avez tous ce défaut dans la famille, ou je sais pas quoi, tout ce qu'il peut vous dire pour vous freiner, vous décourager. T'as bien vu la dernière fois, t'as essayé, puis t'as pas réussi. » Vous voyez, toutes ces moqueries de l'ennemi, etc. À chaque fois que l'ennemi vient vous dire, oh, de toute façon, ton couple ne tiendra jamais la route, c'est mal barré, etc. Qu'est-ce qu'on lui répond? Le Dieu du ciel me fera réussir. Moi, je bâtis. Moi, je bâtis. Et suivant les principes qu'on a vus tout à l'heure, hein, révélation, repentance, etc. Moi, je bâtis. Et vous, toi, là, qui es en train de me parler, tu as ni part, ni droit, il n'y a rien à voir avec Jérusalem, avec ma vie. T'as ni part ni droit. T'as pas à venir me dire ces mensonges-là. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à accepter les mensonges de l'ennemi, oh, je suis trop bête, je suis trop ceci, je suis trop cela, j'y arriverai jamais, il y a l'hérédité, il y a machin, il y a truc. Les gens me mettent dans des boîtes. Je m'en sortirai jamais. C'est peut-être vrai. Mais la vérité, c'est que l'ennemi n'a ni part, ni droit, ni quoi que ce soit à voir avec votre vie. Elle appartient au Seigneur. Et faisons comme Néhémie. On lui répond clairement, mais toi, t'as rien à voir là-dedans. T'as rien à voir là-dedans. J'ai pas besoin d'écouter tes sornettes. On reste poli, on reste ferme. T'as rien à voir là-dedans. Et chaque fois que l'ennemi vient vous décourager, je sais pas ce que vous êtes en train de reconstruire en ce moment, mais je crois que tous on reconstruit quelque chose dans notre vie. Personne n'est à part, je crois. Le Seigneur m'a montré des choses en travaillant Néhémie. Et à chaque fois, je crois qu'il faut qu'on soit ferme, comme Néhémie. Oh, écoute, ça va. Le Dieu du ciel me fera réussir. Moi, je rebâtis, puis toi, t'as rien à voir là-dedans. Et on est clair, on se laisse pas aller à tous les discours décourageants de l'ennemi. Ce qu'on fait en rebâtissant nos vies, notre couple, nos familles, etc., c'est Dieu qui l'a demandé, on obéit à Dieu, ça ne regarde pas l'ennemi. Gardons-le à l'écart de tout ça. Et en quelques mots, il leur dit, Jérusalem, c'est pas votre héritage, vous n'avez pas de droit juridique, votre nom n'est pas lié à cette ville. Bien sûr, eux, ils avaient laissé planer un soupçon, et en quelque sorte, il a répondu à soupçon quand il dit « Vous rebellez-vous contre le roi ?» Ils soupçonnent que Néhémie a un agenda caché de prendre la ville de Jérusalem, la reconstruire, dans le but de se rebeller. Il fait ça, c'est un procès d'intention, vous voyez, il dit simplement « Vous n'avez rien à voir là-dedans, c'est fini. » Alors, le chapitre 3, nous y voilà au chapitre 3, alors là, je ne sais pas si vous avez aimé. Mais il est assez rigolo le chapitre 3 parce que vous avez, il semble assez long et pas très passionnant parce que vous avez la liste exacte des hommes qui se sont mis à rebâtir. Qui va rebâtir? Alors, c'est assez amusant parce que là on va découvrir l'organisation de Néhémie. Il ne procède pas dans le désordre. Et je crois que Dieu est un Dieu d'ordre, j'ai dit tout à l'heure. Dans nos vies aussi, on n'est pas obligé parce qu'on est chrétien de faire n'importe quoi. On peut avoir une stratégie, on peut avoir une façon de procéder, réglo, bien mesurée. C'est pas interdit. C'est vrai que parfois Dieu va intervenir miraculeusement, il va mettre en l'air tous nos plans. Mais c'est pas grave, c'est les siens. Mais nous, pourquoi pas agir sérieusement, un truc à la fois, pas à pas. J'aimais bien ce chant quand j'étais petite, Jésus me dirige, un pas à la fois. Ça fait du bien ça, on n'a pas besoin de faire des bons en avant. Un pas à la fois, c'est déjà bien. Donc, il va pas procéder dans le désordre. On s'aperçoit qu'il a un plan d'action extrêmement précis qui fait une suite logique à son diagnostic. Vous vous souvenez, pour faire son diagnostic, il a fait tout le tour de la ville, de nuit, pour personne l'embête, et il a repéré tout ce qui n'allait pas. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Il fait une liste. Alors, pour moi, toute petite, bien sûr, pour vous, elle est bien grande. Pour tous, il a sa liste, hein, de tout ce qui doit être réparé. On a tous une liste de choses à réparer. Il a fait son diagnostic et maintenant, ce qu'il fait, si vous regardez de près le texte, vous allez voir, ça va devenir plus intéressant, il va découper, il y a environ 3 à 4 kilomètres de murailles. Ça, j'ai regardé parce que je ne le savais pas. Et par contre, j'ai compté le nombre de sections et j'ai vu, tout le monde dit le même chiffre, donc ça doit être ça, que ça fait 42 sections d'environ 80 mètres. Certaines étaient plus longues, certaines étaient plus courtes, mais la moyenne, c'était 80 mètres. Donc, il regarde la ville, il a fait son diagnostic, 3-4 kilomètres autour, et maintenant, il va la couper en petits morceaux. Morceaux d'environ 80 mètres, et il va mettre 42 équipes là-dessus. Bah, c'est pas mal, hein? Alors, 80 mètres, vous imaginez à peu près ce que ça représente. Pour une équipe, c'était un bon travail, mais c'était faisable. Parce que souvent, il y a des critiques qui, malheureusement, font pas ce petit compte, et qui disent que c'était impossible de reconstruire aussi rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fondations des murs étaient encore là. Et les pierres étaient encore là, puisqu'elles n'avaient pas été réemployées pour construire des maisons, puisqu'ils n'avaient pas habité. Parce qu'en général, dans l'Antiquité, ils faisaient comme ça. Hein. Après une guerre, on prenait les pierres qu'on trouvait et on reconstruisait sa maison avec ce qu'on trouvait. Là, ils n'ont pas reconstruit, donc les monceaux de pierres étaient là. Il fallait certainement les nettoyer. Et ils pouvaient reconstruire. Donc, et de temps en temps, il y avait des bouts de murs qui étaient restés entiers. Alors, c'était pas la bombe atomique. Ils avaient quand même pas les moyens qu'on a maintenant. Donc, il procède dans l'ordre, il a un plan d'action très précis qui correspond à son diagnostic. Il découpe en sections et il va donner chaque section à un responsable. Alors évidemment, il donne le nom du responsable, mais le responsable est accompagné d'un groupe de gens. Hein. Il n'est pas tout seul, le pauvre homme, 80 mètres, dis donc. Il y a quand même du travail. Donc il a vraiment pris les gens au mot, c'est « nous rebâtirons » et quand c'est « nous », c'est « nous », c'est tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette liste? Alors, c'est un peu dans le désordre, mais on va découvrir déjà que Néhémie connaît parfaitement les gens qui travaillent. Et ça nous parle du Saint-Esprit aussi. Il nous connaît parfaitement. Il les connaît bien parce qu'il va donner leur nom, leur région d'origine, leur métier, leur famille. Waouh! C'est pas seulement un organisateur, ce gars-là. C'est un homme de relation. Ça aurait été un excellent RH, hein. Impeccable, hein. Il connaît tous les gens, vous vous rendez compte? Il y en a rien, 42 équipes. Il les connaît parfaitement. Et puis, il y a un mot qui revient régulièrement dans ce texte, si vous l'avez lu, c'était félicitations, parce que c'est, faut le lire, hein, c'est pas toujours drôle. À côté d'eux, travailla un tel. À côté d'eux, travailla Tsadok. À côté, et après c'est derrière, derrière. On voit que ce mot, il est répété, mais je pense qu'il y a un message. Ils travaillaient les uns à côté des autres. Ensemble. Il n'y avait pas ce grand groupe et ce petit groupe. Il n'y avait pas des gens qui... Il y avait plusieurs groupes qui travaillaient ensemble, les uns à côté des autres. Ça parle de proximité, ça parle de soutien, de gens qui travaillent ensemble. C'est vrai pour quand on est dans une église, par exemple, dans une famille aussi. On reconstruit ensemble. Alors, il y a un point qui est curieux, c'est que je ne vois pas mentionner ni des maçons ni des charpentiers. Or, j'imagine qu'il devait y en avoir. Mais qu'est-ce qui est mentionné comme métier? Je pense que c'est exprès. Parce qu'on se doute bien qu'il devait y en avoir des maçons et des charpentiers, sinon ils auraient été embêtés. Hein. Par contre, il mentionne les autres. Écoutez un peu. Sacrificateur. Même le grand sacrificateur. Oh, il s'est sali les mains. Des lévites. Des prêtres. Chefs de district. Alors là, le meilleur. Orfèvre. Vous avez déjà vu un bijoutier construire un mur? Je suis sûre qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des orfèvres. Des parfumeurs. Alors, suivant les traductions, on dit parfumeur ou pharmacien, apothicaire. Donc, c'était probablement les mêmes gens. Hein. Vous imaginez? C'est pas des gens qui étaient habitués à travailler avec des grosses pierres. C'est pas un hasard si c'est écrit. Parce qu'il veut nous montrer que tout le monde reconstruit. C'était pas en fonction de leur talent, de leur capacité. Tout le monde travaillait à la reconstruction. Même les parfumeurs, les marchands. Bon, ça passe encore. Et pour l'époque, les filles, il y a une famille où il dit, les filles, c'est le verset 12, à côté d'eux travailla Shalum, fils de Loesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, c'est un chef de région, avec ses filles. Ouais. Les filles s'y sont mis aussi. Alors il y a un archéologue qui fait remarquer que en Perse, parfois aussi, quand ils reconstruisaient des murailles, tout le monde s'y mettait, y compris les enfants, les filles, etc. Mais je pense que c'est pas un hasard si c'est noté, parce que ça montre une chose. C'est quand le Saint-Esprit dirige quelque chose, tout le monde trouve sa place. Tout le monde trouve sa place. Tout le monde travaille à son poste. Tous sont appelés à reconstruire, même s'ils sont pas maçons ou charpentiers. Hein, on fait pas tous, on n'est pas tous compétents en relations d'aide ou en psychologie, mais on est tous appelés à reconstruire nos vies. Tous, quel que soit notre métier, quelles que soient nos compétences, on est tous appelés à reconstruire. Nos vies, nos familles, au travail, partout où on est, soit une association à laquelle vous participez, l'église, on est tous appelés à reconstruire. C'est pas lié à notre travail. Tous les enfants de Dieu sont appelés à cette reconstruction. Alors, on remarque aussi autre chose, c'est le verset 5. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les princes ne se soumirent pas au service de leur maître. Leur maître étant Dieu, hein, il s'agit pas de Néhémie. On va voir des nobles, des Tekoïtes, qui n'ont pas voulu se salir les mains. C'est le seul exemple qu'on a dans la liste sur les 42 équipes. Les Tekoïtes, c'est-à-dire les habitants de la région de Tekoa, je crois, ils se sont mis au travail et du coup, ils sont sympas. Voyant que leurs nobles ne voulaient pas se salir les mains, eux, ils ont pris deux sections. Ils se sont répartis sur deux sections du mur. Ils avaient à cœur de combler le manque. Les nobles n'ont pas voulu se salir les mains. Alors moi, j'aime bien parce que c'est là qu'on voit la façon dont Dieu, dont le Saint-Esprit nous voit. Vous avez remarqué? Moi, je dis, ils n'ont pas accepté, mais la Bible est plus cool que ça. Les princes ne se sont pas soumis au service de leur maître. Moi, j'ai dans ma version. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de pointage de doigt. Simplement un fait. Les princes ne se sont pas soumis au service de Dieu. Point. Vous en tirez ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien cette façon de parler de Dieu parce que c'est pas... Il n'amène pas une condamnation, il dit simplement le fait. Et quand le Seigneur voit qu'on veut pas reconstruire, il est pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux pas te salir les mains, tu veux pas t'y mettre, etc. C'est, bon, t'acceptes pas de te soumettre au service de ton maître. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas qu'est-ce que c'est que ces nobles pourris qui refusent de se salir les mains, ils se croient importants, etc. Ça, c'est les hommes, hein. Mais Dieu, c'est... Voilà, ils n'ont pas accepté de se soumettre au service de leur maître. Et malheureusement, parfois, nous aussi, on est comme ces nobles-là, on n'a pas envie de reconstruire un domaine de notre vie parce que ça fait mal, parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. On a parlé justement à la pastorale, le pasteur expliquait comment certaines choses restent dans notre cerveau limbique. André vous racontera tout ça, ce que ça veut dire. Mais et ça reste gravé, et du coup, on reproduit des actions mauvaises, on reproduit des choses qui vont pas. Et on n'a pas trop envie de s'attaquer à ça parce que ça semble impossible. Et parfois on est comme ça aussi, on est comme ces nobles. Dans certains domaines de nos vies, on n'a pas envie. Oh, je vais pas m'attaquer à ça. Je vais me salir les mains, je vais me faire mal. Et ça peut être un sujet de réflexion. En tout cas, le Saint-Esprit ne condamne pas. Je trouve que Néhémie aurait pu rajouter un petit passage en disant c'était quand même des gens puissants qui avaient de l'argent. Ils auraient pu quand même faire quelque chose, etc. Il n'y a aucun jugement. Simplement, ils se sont pas soumis. En fait, quand on veut pas reconstruire quelque chose dans notre vie, c'est simplement qu'on veut pas se soumettre à Dieu. C'est tout. C'est grave. Mais c'est tout. Simplement, bah voilà. On ne veut pas se soumettre à Dieu. Et il n'y a pas de commentaire. Et ça, c'est merveilleux. Pensez que le Saint-Esprit ne vous juge pas, ne vous condamne pas. Vous voulez pas reconstruire en ce moment telle ou telle partie de votre vie. Ok. Vous voulez pas vous soumettre à Dieu dans ce domaine-là. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de jugement. Ça fait du bien, quand même, de savoir que Dieu ne nous juge pas. C'est Dieu qui est maître. Et le Saint-Esprit ne fait rien pour nous décourager. On remarque aussi que Néhémie sait bien ce qui se passe sur son chantier. Il sait exactement qui fait quoi, où et comment. Pourquoi? Et parce qu'il est au milieu d'eux. Il n'est pas dans son bureau de gouverneur, avec ses plans et ses papiers. Non, il est au milieu d'eux. Donc il va vous raconter des petites anecdotes sur l'un, sur l'autre. Il sait exactement ce qui se passe. Il sait même lesquels travaillent à côté de leur maison, imaginez. Ah ben ceux-là, je les ai placés tout près de leur maison. Peut-être qu'il y a des problèmes pour se déplacer. Mais chacun a sa place sur le chantier et il est avec eux. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Donc ça crée chez les gens un sentiment d'appartenance et de sécurité. Il est avec eux. Et le Saint-Esprit est avec nous dans la reconstruction. Tout le temps. Il sait où on est, il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on fait. Il connaît nos motivations profondes. On a beau dire je ceci, je cela. Lui, il connaît exactement nos motivations. Il sait où on en est. Tous les détails des murs, vous allez le voir si vous vous amusez à le lire, c'est un petit peu, ça peut être lassant, mais quand on regarde de près, c'est marrant. Tous les détails des murs, les portes, les tours, les maisons des prêtres, rien ne lui échappe. Et dans notre vie, le Saint-Esprit, c'est pareil. Rien ne lui échappe. On ne peut rien lui cacher. Il connaît sa mission à fond. Et comme Néhémie a un véritable plan d'architecte dans la tête et dans son cœur, pas seulement dans sa tête, mais aussi dans son cœur. On sent qu'il aime son travail, il aime sa mission et il l'accomplit avec soin. Et je trouve que le Saint-Esprit, c'est pareil. On sent qu'il aime travailler avec nous, il nous juge pas, il nous condamne pas, il est à côté de nous Il aime ce travail. Il aime nous aider à reconstruire. C'est pas seulement, voilà, un tel, tu vas reconstruire ta vie. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Tu vas, ok? Il fait peut-être ça, mais après, il aime être avec nous et reconstruire avec nous. Donc, si vous sentez des choses qui sont détruites dans votre vie, dites-vous bien que le Saint-Esprit, il est là pour reconstruire avec vous. Il sait où vous en êtes. Il aime ce travail. On sent que Néhémie, quand il raconte son truc, moi, je sais pas, je le sens. On sent le gars qui est passionné par ce travail. Waouh! Et un tel, il a fait ça. Il a travaillé à l'entrée, depuis l'encoignure jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliashib. Et puis, il raconte tous les petits détails. Vous savez, quand on raconte les détails, c'est parce que ça nous plaît bien. Et on sent qu'il aime. Il aime reconstruire avec les gens. Ça, ça me plaît, moi. On sent que Dieu aime son travail dans nos cœurs. Il est pas là en disant, oh, pouah, quelle ruine, la vie d'un tel. Dis, waouh, on va rebâtir ensemble. Et on aime ça. Et on va accomplir tout ça avec soin. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai largement dépassé, hein. Et on va juste prier en terminant parce que je crois que c'est important. C'est un message que le Seigneur a mis sur notre cœur pour cette année. Et je crois que on a beaucoup de choses à reconstruire, que ce soit dans notre vie, nos couples, nos familles, nos lieux de travail. Ceux qui ont pris des nouveaux boulots, ils savent qu'il y a plein de reconstructions à faire là où ils sont placés. Et le Seigneur nous accompagne. On va prier pour ça. Seigneur, merci. Et Seigneur, moi, je te remercie parce que tu nous montres en Néhémie une image de ton esprit encourageant. Il est vrai. Il montre où il y a les problèmes, mais il est tellement encourageant. Merci Seigneur de ne pas nous condamner. Chaque fois que tu vois des ruines dans nos vies, tu marches pas dessus en nous condamnant, mais tu dis viens rebâtissons. Merci Seigneur parce que tu nous connais et tu travailles avec nous. Ta bonne main est sur nous et nous réussirons parce que tu es avec nous et c'est toi qui nous feras réussir. Merci pour ta bénédiction pour chacun de mes frères et sœurs ici. Merci Seigneur pour ta bonne main qui est sur nous. Que vraiment nos vies soient rebâties selon toi. Pour être entièrement à ta gloire et pour être une bénédiction pour les autres. Que nos vies soient aussi des lieux de sécurité, afin que ton nom soit glorifié et que nous puissions apporter la sécurité autour de nous. Afin, Seigneur, que le maximum de gens puissent te connaître. Autour de nous, au travail, dans la famille, à l'école, conduis-nous, Seigneur, à résister aussi face aux moqueries, aux mépris de l'ennemi, au mépris du monde. Que, Seigneur, nous ne nous vengions pas, mais que nous soyons fermes sur la vérité. C'est Dieu qui nous accompagne et nous fera réussir. Merci Seigneur pour ta présence. Aide-nous Seigneur à laisser l'ennemi à sa juste place, comme Néhémie l'a fait avec ses hommes qui l'ont attaqué. Parce qu'il n'a rien à voir, notre vie t'appartient. Et nous voulons te louer pour ta protection, ta bénédiction et les promesses d'un avenir et d'une espérance. Dans tous les domaines de nos vies. Amen.